était sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, sise à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny, diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. C'est le roi de tous les rois, le Seigneur des Seigneurs, c'est le Dieu qui guérit, le premier. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. La meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.
Saluons dans le nom précieux de Jésus et nous rendons grâce à Dieu une fois encore et toutes les fois pour nos vies. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu en continuant déjà les enseignements que nous avons donnés tous ces derniers jours sur la foi et l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas de la répétition, mais c'est du développement. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez. Et je crois qu'on ne finira jamais de comprendre l'importance et les enjeux de la foi. Dieu nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Impossible. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire pour que Dieu soit content de vous sans la foi. Donc, quoi que tu fasses, si tu n'as pas de foi, ça ne peut pas plaire à Dieu. Et tu peux prier, tu peux chanter, tu peux louer, tu peux donner des offrandes. Quoi que tu fasses, s'il n'y a pas la foi dedans, c'est impossible que ça plaise à Dieu. Et si ça ne plaît pas à Dieu, Dieu ne l'accepte pas. Si Dieu ne l'accepte pas, ça ne te rapportera rien. Donc tu perds ton temps. Non. La foi est fondamentale. C'est ce que nous avons et que le monde n'a pas. Et la foi, c'est quoi? On dit dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que nos aînés dans la foi, les Abraham, les Enoch et consorts, s'ils ont été agréés par Dieu, c'est en vertu de leur foi. Quand vous prenez Abraham, le père de la foi, il a vécu un certain temps quand même. Beaucoup plus que la plupart des gens ne peuvent vivre aujourd'hui. Il a eu des hauts, il a eu des bas. Je ne sais pas si vous savez tout ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Mais quand Dieu parle aujourd'hui d'Abraham, il le considère comme parfait en toutes choses parce qu'il ne regarde que la foi d'Abraham. Enoch a été enlevé. Il n'a même pas connu la mort terrestre. Parce qu'il a marché avec Dieu dans un niveau de foi terrible. Et je crois qu'il a tellement marché dans la foi qu'il était déjà trop en Dieu pour qu'il reste sur la terre dont Dieu a dû le prendre sans attendre.
Et disons,
la foi est le moyen incontournable par lequel vous pouvez vous saisir de ce que Dieu a à vous offrir. La foi est pour votre vie spirituelle, donc pour votre esprit, ce que les yeux et la main et le nez et l'ouïe et l'odorat et le toucher sont pour votre corps. C'est-à-dire que tout le système nerveux et tous les sens de l'homme, imaginez un corps qui est aveugle, qui est sourd, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas sentir, qui ne peut pas toucher, qu'est-ce qu'il va être? Tout ce que nous faisons, nous n'arrivons à le faire qu'à cause de nos sens. Voir nous permet de savoir la situation autour de nous. Ou mettre le pied ou ne pas mettre le pied. Où nous pouvons aller ou nous ne pouvons pas aller. Qui est là, qui n'est pas là. Est-ce que la personne sourit ou bien la personne ne sourit pas? Si quelqu'un veut te tuer avec un couteau, c'est parce que tu le vois que tu peux le feinter. Si tu peux traverser la voie sans être écrasé ou pas, c'est les yeux qui te le disent. Mais nous marchons tous les jours par la vue. C'est ce que nous voyons qui détermine comment nous marchons. Quand parfois vous voyez un accident terrible, par exemple quelqu'un écrasé et puis vous voyez son sang par terre, ça suffit à changer votre humeur pour toute la journée à cause de vos yeux.
Mais
celui qui n'a pas de foi est quelqu'un qui est spirituellement aveugle.
C'est-à-dire
qu'il ne voit pas les choses de l'esprit. Parce que c'est par la foi qu'on voit les choses en esprit que les yeux du corps ne peuvent pas voir. C'est par la foi qu'on entend ce que l'esprit dit et que les oreilles du corps ne peuvent pas entendre. C'est par la foi qu'on sent des choses spirituelles que les sensations humaines ne peuvent pas sentir. C'est pas la foi que vous pouvez toucher. Quand je touche ça maintenant, même les informations, ça c'est du verre, ça c'est du plastique, ça c'est du bois. Quand je touche quelque chose, je reçois une information. C'est la foi qui, au niveau spirituel, est l'équivalent de ce toucher qui vous communique l'information. Je ne sais pas si ça existe, mais je crois qu'il n'y a aucun homme sur la terre que Dieu a privé des cinq sens.
Quand
quelqu'un ne voit pas, souvent il a une ouïe très développée. Souvent
ils
ont un odorat très développé.
Alors,
par exemple, les aveugles, ils tâtonnent beaucoup les choses pour toucher les choses, sentir où ils sont. Quand ils doivent lire, par exemple, ils lisent le braille, qui est une écriture qui se concentre sur leur sens, leur toucher. C'est ce qu'on pourrait appeler en informatique des périphériques d'entrée. En informatique, on vous dira que le clavier et la souris sont des périphériques d'entrée. C'est par là que l'information rentre dans l'ordinateur et l'ordinateur peut le travailler pour faire quelque chose. L'homme est comme une machine qui reçoit des informations. En fonction de l'information qu'il reçoit, il prend une décision. Et il détermine qu'est-ce qu'il doit faire pour atteindre ses objectifs.
Donc,
la nature des décisions qu'il prend, la qualité des décisions qu'il prend, dépend beaucoup des informations qu'il a reçues. S'il reçoit de bonnes informations, il prendra de bonnes décisions. S'il reçoit de mauvaises informations, il prendra de mauvaises décisions. Et beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'ont pas reçu à temps la bonne information. Il y a beaucoup de dictateurs qui sont morts au pouvoir. Parce qu'à un moment où ils étaient déjà finis, leurs collaborateurs les ont convaincus qu'ils étaient encore en situation de force.
Donc,
il y a deux genres de dictateurs. Quand ils ont la bonne information, un peu comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps à nos frontières au nord, ils s'enfuient avant que tout ne se gâte. Mais quand ils ont la mauvaise information, ils font comme d'autres, ils s'enferment dans des bunkers où ils sont tués comme des rats dans des égouts parce qu'ils ont continué de croire alors que tout était fini, qu'il y avait encore de l'espoir. La nature des informations que tu reçois par tes cinq sens. En supposant que tu sois intelligent, détermine tout ce que tu fais. Mais quel est le problème de l'homme? C'est que l'homme n'est pas constitué essentiellement d'un corps. Le corps n'est que la carapace. Le corps, c'est comme la carrosserie de la voiture. La voiture n'est pas sa carrosserie, la voiture c'est un moteur d'abord. Ce n'est pas la carrosserie qui conduit la voiture, c'est le moteur qui conduit la carrosserie. Tu peux avoir une belle carrosserie toute neuve et puis ça brille. Si c'est un vieux moteur de deux chevaux qui est dedans, ta voiture n'ira nulle part. Ça veut dire qu'il vaut mieux avoir une deux chevaux de carrosserie avec un moteur de Mercedes. Là, tu vas pouvoir bien filer comme une Mercedes que d'avoir une Mercedes avec un moteur de deux chevaux.
L'homme adoe gbohan ji ranfon si hun lo be wa sodo beru hun dagbe o meo ena nyonu ewu eni se go dagbe o lo bo aze egboran ji bo ranfon blehun egba gruza ji agruza te ku wa electricity claja hun eni o so I moto wa de enyonu ewu ga ni lori.
Le moteur est plus important que la carrosserie pour savoir ce que véhicule peut faire. Won do
taji hun ga go bo da si gan tu fi ape o.
Mais l'homme est comme une voiture qui passe tout son temps à soigner, à nourrir, à entretenir la carrosserie, en laissant le moteur tomber en ruine. Vous habillez bien, vous sapez, vous êtes des designers de mode, vous portez de belles chaussures, de beaux chapeaux, de belles montres, vous mangez bien, vous devenez gros, vous vous faites plaisir, tout ça là, vous êtes en train d'entretenir la carrosserie. Est-ce que c'est la carrosserie qui fait votre bonheur?
Le bâtiment, je vois le bâtiment. Pas tout, le sapé, tu veux le repas. À ça, non, le ça. Le bâtiment, le bon, 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 le bon,
Est-ce que tu vas aller loin avec ça? Il faut s'occuper du moteur. Le moteur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Ce que Dieu a créé à son image, ce n'est pas le corps de l'homme. Dieu n'est pas de corps, c'est l'esprit de l'homme. Ce qui est Dieu dans l'homme, c'est l'esprit de l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme. Regardez simplement. Je peux vous attacher ici. Si j'attache ça, mais seulement tu ne peux plus bouger. Si je te maintiens ici, tu ne peux plus bouger.
Et
il est facile de t'attacher ici ou de t'enfermer si tu ne peux plus bouger. Mais personne ne peut enfermer ton esprit. Même si je t'enferme ici, je ne peux pas empêcher ton esprit de penser à ton lit.
Hein?
De penser à ta maman, de penser à ton papa, d'aller dans tes voyages aux États-Unis, d'aller dans tes livres, d'aller dans la Bible, de méditer la parole de Dieu. Est-ce que je peux empêcher ton esprit d'être libre? Un esprit peut faire en 5 minutes le tour du monde. Un corps ne peut jamais faire le tour du monde en 5 jours.
Ton
corps ne peut pas aller dans le passé, ton corps ne peut pas aller dans le futur, il ne vit qu'au présent. Mais ton esprit va dans le passé, va dans le futur, il est au présent. Tu ne vois pas qu'il y a une différence et que l'essentiel ce n'est pas ton corps. Ton esprit peut créer les choses. Il est là, il imagine une maison d'une forme bizarre, et maintenant ton corps lui obéit le crée. Mais celui qui démarre les choses, celui qui peut inventer, celui qui amène les choses à l'essence, c'est ton esprit, c'est pas ton corps.
Nous non donnons à Tchè, mais nous non dandé, fille de don don de ton gosse en pique bois, mais ton mère, toi la tchè, fille de ton pique bois, toi aussi, pour l'enquête, pendant que le renati, oui, nous a pas ça, toi non a y est, pénal au boy bolo, nous l'a pique bois, mais ton mère, gosse.
Ce que tu fais de ta journée, ce n'est pas ton corps qui le fait. C'est ton esprit qui dit que aujourd'hui je veux, je veux, je veux, et ton corps lui obéit. Ton esprit est le plus puissant. Ton oui. esprit est le maître de ta vie. Ce n'est pas ton corps. Ton oui. corps n'est qu'une carrosserie.
Big boy, to we wena do. We tell you to we. Big boy, we don't let do. Egg boy, na blow nu le. Azan le. Boy, nu le. Na waro we le nu. We chuba kasa na blow.
Si je te donne mauvaise nouvelle maintenant, tu reçois un mauvais SMS. Ça peut détruire ta journée, toute ta semaine de soucis. Alors que ton corps n'a rien. Qu'est-ce qui a été attaqué? Ton esprit.
Na do file vlafo. Lo boy, do we yena kande nu yo. Evo kese blato e blene.
Quand tu es au chômage.
We na mama zawa.
Qu'est-ce qu'il y a des soucis? Qu'est-ce qui est malade? Ton corps, il n'a pas de problème? C'est ton esprit qui est malade. Quand on dit que quelqu'un est heureux, c'est pas son corps qui est heureux. C'est son esprit qui est heureux. Beaucoup de maladies viennent d'abord de l'esprit. Quand tu parles un peu là, tu as des soucis maintenant. Regarde ton corps au bout de quelques jours, ton corps sera malade. C'est pas le corps qui est malade, c'est l'esprit qui rend le corps malade en étant malade.
Azon tege non son big bomi ton utu do ete utu e when they am lying about Azon fini akpasa tu la son de jewe ame big bomi tu la son jewe.
Donc pourquoi j'insiste sur l'importance de l'esprit?
Ete utu e zon lo bon tede big bomi.
Il faut pas voir la foi comme quelque chose de théorie dont on parle à l'église.
Mi ma do jile mi don didi yo ba e di fo e no do la misa adon pong.
La foi est pour votre esprit. Ce que vos cinq sens sont pour votre corps.
L'homme est nous de nous jaloux tout et nous accastatoire et when did you ni nous et le big bomb.
Si toi-même tu sais que ton corps ne peut pas vivre sans voir, sans entendre, sans toucher, sans sentir, évidemment ton esprit ne peut pas vivre sans entendre, sans toucher, sans sentir, sans parler, sans pouvoir parler.
Accastatoire masigan non père accastamé nous jaloux tout et le big puis d'obloa. Moi d'obloa quoi ça masigan non père le big bomb nous did it tout d'obloa.
Sur les choses concrètes, les choses matérielles. Tes sens sont fonctionnels, sont utiles, parce qu'ils sont conçus pour agir sur les choses concrètes. Or, Dieu nous dit que les choses invisibles sont plus grandes et plus éternelles et plus vraies que les choses visibles.
C'est
les choses visibles qui sont sortis des choses invisibles, pas l'inverse. C'est ce qui se passe dans l'invisible qui crée ce qui se passe dans le visible. Le visible n'est qu'une matérialisation, une concrétisation d'une partie, d'une petite partie de ce qui se passe dans l'invisible. Si je prends la main, je lève ma main comme ça, je prends mon téléphone, vous avez vu mon téléphone être pris par ma main. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie de ce qui se passe dans ma tête. Là, j'ai décidé dans ma tête de prendre mon téléphone. Quand vous avez vu ma main se lever là, c'était bien après que j'ai décidé ça dans ma tête. Donc vous n'avez vu qu'une petite partie de ce qu'il y a dans ma tête. Mais ce qu'il y a dans ma tête est infiniment plus grand que la petite partie dont vous voyez cette partie visible.
L'homme est venu à l'olé, le bosé, nous l'avons dit, le dieu, mais d'abord, nous l'avons dit, et même, nous l'avons dit, takache me we ko lede do na so e we so mo so bo mi wa mo amo de so le me no no ti joro takache me o kede jene bo e vo nde bu so ti jo bo mi mo ni ati gba we mu pe vide we ni do mu e ko takache me le me no takache me le su po
quand on prend un homme
oui, c'est
pourquoi les gens disent que l'homme n'est pas comme un gombo qu'on peut ouvrir et scanner. Parce que quand tu regardes l'homme, tu ne peux regarder que le visible. Il peut te sourire alors qu'il te déteste. Il peut bien te parler alors qu'il te déteste.
Mais
tout ce que tu peux voir en lui est insignifiant à côté de tout ce qu'il pense de toi, mais que tu ne verras jamais. Donc, dans tous les cas, la partie invisible du monde, de la vie, est toujours infiniment plus grande que la partie visible. Et toutes les vraies choses et les choses les plus importantes sont souvent invisibles. L'amour est l'une des plus grandes choses du monde. Elle est invisible. La douleur est invisible. La joie est invisible. La tristesse est invisible. Les gens se soucient, on dit, mais pourquoi il est mort? Jusqu'hier, je l'ai vu parler, il riait. Donc on voyait le visible. On ne voyait pas l'invisible qui était là, qui le préparait au suicide.
Mais là, nous avons encore le bon coup, nous avons eu moins sorti, mais nous avons eu un grand ici, et
l'air que nous respirons, c'est la chose la plus importante de notre vie. Les réseaux GSM là fonctionnent par quoi nos téléphones sont connectés? Vous le voyez? Comment les images rentrent dans vos télévisions, vous le voyez? Comment les voix rentrent dans vos radios, vous voyez? Comment je suis ici, je parle et ça rentre dans vos oreilles. Vous voyez ma voix? Comment vous faites pour m'entendre? Vous ne voyez pas que l'essentiel est invisible? Mais l'homme est tellement bête qu'il croit que ce qui se voit est le plus important. Et la plus grande bêtise de ce siècle, c'est des gens qui croient que quand quelque chose ne se voit pas, ce n'est pas vrai, il ne faut pas le considérer. Vous allez voir, les jeunes se concentrent entièrement sur leur apparence. Elles s'habillent n'importe comment, elles portent des décolletés, des micros, des tatouages. C'est-à-dire qu'il y a un culte du visible, alors que le visible est futilité et disparaît très vite. Le visible est éphémère. Ce qui va déterminer votre vie, votre bonheur, votre malheur, votre réussite ou votre échec, votre vie ou votre mort, ce n'est pas les choses visibles, c'est les choses invisibles. Tu meurs d'une maladie visible, mais créée par des microbes invisibles. Il faut comprendre le pouvoir de l'invisible. Si vous avez donc ainsi compris que l'invisible est important, comment quelque chose d'aussi important que ça, vous pouvez ne pas le gérer? Rien que les choses visibles, hein? Selon ce que tu vois, tu es obligé d'en tenir compte pour agir. Imagine, tu veux faire une sauce. Est-ce que quelqu'un d'aveugle peut faire une sauce? Comment il va prendre les ingrédients? À la limite, par expérience, peut-être qu'en prenant le sel, il sent que c'est du sel, ça c'est de la tomate. Oh, je vous ai dit que la foi, c'est les cinq sens. Imaginez une femme, elle ne voit pas. Bon, elle va peut-être vouloir sentir les ingrédients pour faire la différence. Elle n'a pas d'odorat. Elle va peut-être vouloir toucher. Elle ne peut pas toucher. Comment elle va faire la cuisine? Elle n'a pas adoré pour que quelqu'un dise, prends ça là, prends ci. Comment elle va faire la cuisine? Comment elle va savoir qu'il y a déjà de l'huile sur le feu? Que c'est suffisamment chaud? Qu'il faut maintenant mettre ci. Mais un homme qui vit sans foi, c'est comme une femme qui veut faire la cuisine, préparer du tchèp gin ou bien une sauce terrible là, mais qui n'a aucun sens. Et elle rentre dans la cuisine, elle va faire comment?
Tu es fou, tu t'en fous là. Ni dans je le béton, mi pendant je le béton de ma don didia. Bosé do, béton nyonu. Déjà d'agne, bon John ton de bouca à soi, à forma à soi, l'homme à soi, nous comme à soi, on t'y m'a soi, nous m'a soi, on t'en a ma cassé nous. L'eau était d'agne déjà.
La foi, c'est l'essence de l'esprit. Si votre vie en fait c'est votre esprit et que tout ce que vous recevez de la vie en bien ou en mal dépend de votre esprit, c'est que votre vie doit être cuisinée par votre esprit. C'est votre esprit qui va à la cuisine de Dieu et qui fabrique ce que votre vie va donner comme sauce. Voilà que vos sens physiques ne peuvent rien voir dans le domaine de l'esprit. Un sorcier veut te tuer, aucun de tes sens ne peut te le dire. Ce qui va te faire du bien ou du mal, tes sens naturels ne peuvent pas te le dire. C'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas Dieu vivent de manière où celui qui connaît Dieu dit, mais il est fou ou quoi? Comment il peut faire ça? Ça va le détruire. Mais lui ne voit pas que ça va le détruire parce qu'il n'a pas les sens qui permettent de voir ce qui se passe vraiment quand il est en train d'agir. Un aveugle, s'il est sur le pont, il peut être en train de marcher vers le bord du pont alors que c'est un pont à 100 mètres. Il va mourir, mais lui ne voit pas. Comment il va savoir qu'il veut mourir? Parce que toi, tu vois que tu dis qu'il veut mourir. Lui, il avance seulement. Il ne voit pas, il ne sent pas.
S'il
y a tant d'accidents dans le monde, c'est parce que les hommes, ils ont beau avoir les sens du corps, ils agissent dans le domaine spirituel, parce que tout est spirituel, sans avoir aucun sens spirituel, ils sont aveugles, muets, sourds, sans toucher, ils n'ont aucun sens spirituel. L'homme sans foi, c'est l'homme qui n'a aucun sens spirituel. Mais que tu le veuilles ou non, tu es vif dans le spirituel.
Comment tu vas t'en sortir?
Donc la foi vient équiper l'esprit de l'homme des sens qui vont lui permettre de marcher et d'agir intelligemment dans un domaine où les sens humains
ne peuvent rien pour lui.
Et donc, la Bible nous dira par exemple que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Le monde spirituel est là. Il a toujours existé. Et il est bien réel. Il y a des acteurs dedans. Il y a des anges dedans. Il y a des démons dedans. Il y a des sorciers dedans. Il y a des charlatans dedans. Il y a des prophètes dedans. Il y a des hommes de bien dedans. Il y a Satan lui-même dedans. Il y a des démons dedans. Et tout ce monde-là est en action en permanence. Si tu es spirituel, c'est même pas si tu es. Nous sommes tous spirituels malgré nous. Et que tu n'as pas la foi, c'est que tu marches aveuglément dans cet environnement-là. Là, mais tu es le jouet des démons et du Satan.
Donc,
tu vas subir ta vie au lieu de la gérer. Il te faut donc voir dans le monde spirituel ce qui se passe. Il te faut entendre dans le monde spirituel ce qui se passe. Il te faut sentir ce qui se passe. Il te faut parler dans le spirituel pour commander. Il te faut agir dans le spirituel. Voilà, l'esprit n'a pas de corps. Il n'a pas de main. Il n'a pas d'oreille. Il n'a pas de nez. Il n'a pas de toucher. C'est la foi qui est tout ça là pour ton esprit. La foi, quand la parole de Dieu me dit qu'elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, c'est que même si tu ne vois rien, la parole de Dieu est comme un miroir. La parole de Dieu nous dit qu'elle est un miroir. Et ce miroir là te révèle ce qu'il y a d'invisible. C'est la parole de Dieu qui te dit il y a un micro là. Tu ne le vois pas, mais spirituellement, il y a un micro là. Il y a un haut-parleur là. Attention, là, il y a un trou. Là, il y a des chaises. Là, il y a des gens qui vont t'aimer. Là, il y a des démons qui veulent te détruire. Là, il y a des anges à ton service. Tu ne les vois pas. Mais comme toi, tu n'as pas des yeux pour les voir, la foi te communique ce que tu aurais dû pouvoir voir. Elle te le communique par tes oreilles humaines. Quand tu fais rentrer dans tes oreilles humaines ce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu te révèle donc le monde invisible. Il te dit qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. Qui y a dans l'invisible? Qu'est-ce que chacun fait dans l'invisible? Comment chacun agit dans l'invisible? Quel est le pouvoir de chacun dans l'invisible? Quelles sont les lois dans l'invisible? De l'huile avec telle chose, ça va te donner un beignet. De l'huile avec telle chose, ça va te donner un gâteau. Tu ne le vois pas, mais la parole de Dieu te décrit le monde spirituel et te dit comment marcher dans le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle la vérité. La réalité, c'est ce que toi-même tu perçois dans le monde visible. Mais la vérité, c'est la réalité du monde invisible. Mais celui qui n'a pas de sens spirituel, celui qui n'a pas de foi, ne va jamais connaître la vérité. Parce qu'elle n'est pas accessible au sens de l'homme. C'est pour ça que la Bible nous dit que la foi est une folie pour l'homme qui n'est pas spirituel. Il y a un feu là, spirituellement. Tu n'as pas de sens spirituel. Tu marches dans le feu. La parole de Dieu te dit, ne va pas là. Il y a un feu là. Tu vas dire, mes yeux ne voient pas de feu. Tu continues de marcher. Tu arrives là, tu es brûlé. On dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais la parole de Dieu t'avait déjà dit que là, il y a un feu. Mais tu n'as pas cru. Tu n'as pas eu la foi. Tu as refusé d'accepter ce que la parole de Dieu te révélait sur le monde spirituel. Est-ce que vous commencez à comprendre? La foi, c'est de savoir que Dieu existe, que le monde spirituel existe, que l'invisible existe et qu'il est plus important que le visible. Et que comme tout monde, il faut le comprendre pour y agir. Mais comme ton esprit ne peut pas utiliser tes yeux et tes autres sens pour fonctionner, la foi, c'est de dire, Dieu m'a déjà dit tout ce qu'il y a à savoir. Je prends la parole de Dieu, je la reçois, je la crois. Et donc, j'ai une foi qui vient de ce que la parole de Dieu m'a révélé sur le monde invisible. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, c'est aussi la ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. C'est toujours la même question. Tu ne le vois pas. Tu ne le sens pas. Tu ne le touches pas. Mais la parole de Dieu dit que c'est là. Est-ce que tu le crois? Je donne un exemple. Il y a des anges, des milliers d'anges. qui sont en action. La parole de Dieu dit que les anges existent. La parole de Dieu dit que ils sont forts, qu'ils sont très puissants, qu'ils savent beaucoup de choses, qu'ils peuvent être partout et qu'ils sont au service de Dieu pour rendre ministère à ceux qui croient en Dieu. La parole de Dieu dit que les anges courent pour exécuter toute parole de Dieu. Quand ils entendent la parole de Dieu, c'est comme si tu appuyais sur un bouton. Ils courent et ils exécutent la parole de Dieu. Parce qu'à travers eux, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Par eux, Dieu veille à ce que ce que sa bouche a dit soit accompli. Ça, c'est la parole qui te le dit. Toi, moi, je n'ai pas encore vu d'ange. Quelques rares personnes en ont vu. Mais la plupart d'entre vous, je suis, vous n'avez jamais vu d'ange. Mais voilà, la parole de Dieu me dit que tout ce que je viens de dire là, c'est la parole de Dieu. Ça dit ça. Si je ne le crois pas, j'agis comme s'il n'y a pas d'ange. Si je le crois, si j'ai la foi, même si mes yeux ne l'ont pas vu, j'ai la ferme assurance que si la parole de Dieu l'a dit, si je l'ai entendu la parole de Dieu, c'est que ça doit être vrai. Et donc j'agis en conséquence. Je me comporte en sachant que c'est assurément vrai cela. Qu'est-ce qui en découle pour moi? Pourquoi Dieu dit de ne pas parler n'importe comment? Pourquoi il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Pourquoi quand tu dis des bêtises, c'est dangereux? Pourquoi Dieu dit que le faible dise je suis fort? Vous devez savoir que autant il existe les anges de Dieu, autant il existe les démons. Les démons, c'est des anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui sont maintenant servis de Satan. Eux aussi, ils marchent à la parole. Quand il dit je suis malade, tu viens de dire une parole. Les anges de Satan veillent à ce que cette parole s'accomplisse. La maladie est une volonté de Satan. De la même manière que quand tu dis je suis béni, quand tu dis je suis guéri, quand tu dis je suis fort, quand tu dis je suis riche, parce que Dieu a dit que tu seras riche, qu'il te bénira. Quand tu dis je suis riche, au nom de Jésus je suis riche, les gens ne veulent pas savoir si c'est Dieu qui a dit ou si c'est toi qui a dit. Quand tu prononces un décret de Dieu, les anges se servent du décret et il exécute. Quand Dieu a dit quelque chose et tu répètes la chose, les anges ne veulent pas savoir qui a répété. Ça, c'est une parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, eux, ils la prennent et ils font leur bloqueur de l'exécuter. De la même manière, les démons sont là. Quand la parole de Satan sort, ils sont là, ils la prennent et ils vont l'accomplir. Tu es là. Tu ne vois pas de démons. Tu ne vois pas d'anges. Parce qu'ils ne sont pas dans le matériel et qu'ils sont dans l'invisible. Tu n'as pas de foi. Donc tu ne sais pas ce que la parole de Dieu en dit. Et tu n'as pas une ferme assurance de cela. Je me sens mal. C'est comme si j'ai mal au dos. Hein. Et il semble que j'ai mal au ventre. Hein. Et ma tête va exploser. Hein. Et je suis tout le temps malade. Hein. Je suis pauvre. Hein. La vie est dure. Hein. Les anges de Satan, il veille sur la parole de Satan pour l'accomplir. Ça, c'est la parole de Satan. C'est lui qui est là pour détruire, pour voler, pour te rendre malade, pour égorger. Quand tu sors les décrets de Satan, les démons le prennent et ils appliquent. Conclusion, chaque fois que tu parles, tu vois que tu parles seulement. Alors que tu es en train de donner des choses que les démons prennent et t'appliquent. Conclusion, tu auras toujours ce que tu as dit. C'est pour ça que la Bible nous dit que qu'on suivait notre langue, parce que nous en mangeons les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu dis je suis béni, je suis heureux, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Dieu veille sur moi. Il me bénit selon sa richesse et sa grâce. Je suis prospère à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Tout ça, c'est des paroles de Dieu. Quand tu dis ça là, les anges prennent ça et ils t'accomplissent ça. Tant que tu parles bien, ils accomplissent le bien. Quand tu parles mal, ils croisent les bras. C'est plus possible pour eux. Les anges qui aiment ça là, les anges de Satan prennent ça et t'accomplissent ça. Et tu dis, pourquoi je me sens mal? Pourquoi je suis malade? C'est parce que tu parles de la maladie. Parce que tu as prophétisé ta maladie. Mais si tu n'as pas de foi, tu ne comprends pas le lien qui entre ce que tu dis et ce qui t'arrive. Si tu as de la foi, c'est évident pour toi. Ouais, quand on dit foi, Et avant, comme c'est quelque chose de magique, il faut que j'aie la foi. La foi n'a qu'à venir. Et puis, comme c'était quelque chose d'ésotérique. Mais c'est quelque chose de concret, la foi. C'est pas que je suis là et puis bon, la foi tombe dans ma tête. La foi vient de ce que tu entends. C'est-à-dire que la foi, c'est d'entendre la parole, de croire la parole et d'agir selon la parole, de marcher selon la parole, de considérer que la parole est vraie et que ce qu'elle décrit, même si tu ne le vois pas de tes yeux, et c'est vrai. Et c'est ça qui manque aux gens. Ça manque aux gens parce que les gens ne prennent pas Dieu au sérieux. Donc l'enjeu de la foi, c'est est-ce que tu prends Dieu au sérieux? Quand tu dis que la Bible est la parole de Dieu, et que c'est vrai, et que ce que ça décrit est vrai, est-ce que tu le crois? Quand Dieu dit par exemple que si tu es en train de prier et que tu es en rancune avec quelqu'un, il faut aller le voir, lui faire la paix d'abord, tu dis bon, moi ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie, c'est fini. Mais c'est manquer de foi. Si la parole te dit que si tu es en rancune avec quelqu'un, il faut faire la paix avec lui avant de prier, tu dois croire que c'est vrai. Parce que si ça te le dit, c'est que ça te révèle une loi spirituelle que tu ne vois pas mais qui est en action. Quelle est cette loi là? C'est la loi de la réciprocité. La réciprocité, c'est-à-dire Dieu te fait comme tu fais aux autres. Dieu dit que il te traite comme tu traites les autres. Si tu donnes, il te donnera. Si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas. Mais si tu pardonnes, il te pardonne. Quand tu pries, c'est que tu demandes quelque chose à Dieu. Écoute, tu ne peux pas être recherché pour trafic de drogue par le commissariat et aller porter plainte qu'on est venu voler ta radio hier. Ou bien, on a mis ta photo partout dans le quartier que la police te cherche parce qu'ils vendent la drogue. Quelqu'un vole son portable, tu peux aller comme ça pour porter plainte. Tu peux? Évidemment que non. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Le pécheur est wanted au ciel. Il est recherché. C'est l'expression en anglais pour dire recherché. Tu as péché, tu es recherché pour être puni. À moins que tu aies demandé pardon à Dieu en vertu du pouvoir de la croix, tu es coupable. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de grain de petit péché. Un péché, c'est un péché. Donc, tueur, braqueur, trafiquant de drogue, violeur, pour les policiers du ciel, c'est la même chose. Donc, même si tu insultes quelqu'un, c'est un péché. Tu es recherché au ciel comme si tu avais tué quelqu'un. Voilà. Maintenant, toi, tu veux prier. Tu te présentes devant le trône de Dieu et tu commences à lui parler. Qu'est-ce que les policiers de Dieu sont censés faire? Ou t'attraper et te punir? Ou dire, ne lui réponds pas, ça c'est un pécheur. Mais si Dieu t'écoute, c'est en vertu de l'œuvre de la croix. S'il veut t'écouter et te bénir alors que tu es recherché, c'est parce qu'il est miséricordieux. C'est parce qu'il pardonne. Mais le problème, c'est que Dieu étant parfaitement juste, il est obligé d'être fidèle à sa propre parole. Il ne peut pas dire une chose et faire le contraire. Donc, quand Dieu dit que tu es coupable, tu dois être puni. À moins qu'il te pardonne. Et il dit que on ne peut pas te pardonner si toi tu ne pardonnes pas. Quand tu viens, tu pries. Dieu va dire, il faut que je le pardonne pour le bénir. Au moment de vouloir te pardonner, Satan dit, non, tu ne peux pas le pardonner. Lui, là, il y a quelqu'un qui l'a juste insulté. Il ne veut pas pardonner. Quelqu'un l'a juste loigné. Il ne veut pas pardonner. Quelqu'un ne l'a pas aidé. Il ne veut pas pardonner. Tu as dit que si quelqu'un ne pardonne pas, tu ne lui pardonnes pas. Lui-même, il vient de faire le notre père. Il dit, pardonne-moi comme je pardonne. Il ne pardonne pas. À moins d'être devenu un juste Dieu, tu ne peux pas le pardonner. Et si tu ne le pardonnes pas, nous sommes d'accord que tu n'as pas le droit de le bénir. Tu dois même le laisser le détruire. Parce que le salaire de son péché, c'est la mort. À moins qu'il soit sous le pardon. Donc, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, comme avec Job, laisse-moi m'occuper de ce petit-là. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il va renier sa parole à cause de toi. Il va dire que Satan ment. Au bout, il va dire va. Mais ne le tue pas. Parce qu'il est né de nouveau. Parce qu'il est sauvé. Il a l'éternité en garantie. Mais, bon, comme c'est la parole, Je ne peux pas t'empêcher de maltraiter. Paul a déjà dit que rien ne peut les séparer de mon amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni toi-même Satan. Mais j'ai veillé à ce qu'ils les préviennent. Que ce qu'ils ont semé le récolteront assurément. Donc là, on leur demande de la récolte. Je ne peux pas t'empêcher de lui faire écouter ce qu'il a semé. Mais ne le tue pas. Conclusion, tu pries. Ta prière n'est pas exaucée. Bien au contraire, tu pries. Et c'est maintenant que le problème s'accroisse encore. Parce qu'à la faveur de ta prière, Satan, par le travail que je viens t'expliquer, elle veut bien obtenir le droit de te punir parce que toi, tu n'as pas pardonné. Ça, je prends ces exemples-là pour montrer que quand on prend cette petite phrase, pardonne pour être pardonné. La foi, c'est que tu peux ne pas toujours comprendre les choses comme je viens d'expliquer là. Tu vois, quand je t'ai expliqué, maintenant tu as compris.
Mais
on ne t'a pas tout expliqué.
Et
on ne t'expliquera pas tout. Mais chaque fois que Dieu dit de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, pas de mécanisme similaire, tu en paieras toujours le prix. Parce que les anges veillent sur la parole de Dieu pour l'accomplir. Donc si tu es intelligent, tu vas savoir que la foi n'est pas un comportement religieux. La foi, c'est l'intelligence qui permet d'avoir des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, des sens spirituels. Et qui te permettent d'agir intelligemment dans le règne spirituel. Nous allons lire Matthieu 11, du verset 28 au verset 30, je crois. Le Seigneur dit ceci dans Matthieu 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Je vais relire. Mais avant de relire, je voudrais expliquer quelques mots pour que la traduction soit plus fidèle, parce que c'est des mots qui n'existent pas en fond, donc il faut que j'explique mieux. Alors, le jour là, c'est pas un fardeau lourd. C'est vrai que de manière au sens figuré, on dit souvent qu'un lourd fardeau est un joug. Mais ce n'est pas dans ce sens-là ici que la parole parle. Je ne sais pas à quoi je vais comparer ça. Vous voyez, quand par exemple on veut utiliser des bœufs, par exemple, pour tirer des chèvres, des charrues, il y a quelque chose, ça peut être en bois, ça peut être en fer. C'est un truc qui est souvent un peu une barre. Et il y a dedans une forme ou une ouverture qui permet de l'appliquer au cou de l'animal. Donc, c'est quelque chose qu'on met sur le cou de l'animal. Non seulement ça, c'est sur le cou de l'animal, mais ça prend le cou de l'animal à son épaule, de telle sorte que, en bougeant, l'animal bouge le joug. C'est-à-dire, le joug limite, conditionne, oriente le mouvement de l'animal par rapport à ce qui est connecté au joug. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est difficile à expliquer. Donc, cette barre-là, ce bois-là, effectivement, pèse sur l'animal, limite son mouvement. Il peut être lourd, mais il n'est pas forcément lourd. Un bon joug doit pouvoir permettre que l'animal, à travers ses mouvements, entraîne la charrue sans pour autant trop peser sur l'animal. C'est quand le joug est mal fait qu'il devient un fardeau qui écrase la tête de l'animal. Mais le plus important dans la notion de joug, c'est que quand on te met le joug, c'est que tu dois tirer quelque chose. Tu dois porter quelque chose.
Nous,
Donc quand le Seigneur dit, si venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais il dit, vous êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Donc le Seigneur dit ici que, si tu ne veux plus avoir un lourd fardeau, tu es fatigué des problèmes, des soucis, du célibat, du chômage, de la méchanceté des hommes, de la famille. Si tu es fatigué de porter un lourd fardeau de maladie, viens, je vais te donner du repos. Donc il ne dit pas, viens, je vais te charger, je vais te maltraiter, je vais te mettre un nouveau poids. Tu as déjà un fardeau. L'une des plus grandes erreurs que les hommes font, c'est de croire que quand ils sont dans le monde, ils sont libres. Vous allez voir, c'est comme les Juifs. Ils sont dans le désert après que Moïse est sorti d'esclavage. Comment ils parlent? Quand on était en Égypte, on mangeait de la viande, on mangeait des légumes, on pouvait manger comme on veut, on pouvait voir comme on veut. Si tu les entends comme ça, tu ne connais pas l'histoire. Tu vas oublier qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Ils ne parlent que des avantages de l'Égypte. Ils ne parlent pas de leur souffrance et de leur statut d'esclave en Égypte. Tu vois les gens venir à l'église. Ah, quand j'étais dans le monde, j'allais en boîte de nuit. Je pouvais sortir les filles comme je voulais. Il ne te parle que du bon côté du monde. Mais tu oublies de te dire qu'il ne pouvait pas dormir. Qu'il était tout le temps malmené. Qu'il était tout le temps malade. Qu'il n'avait pas la paix. Qu'il ne savait pas ce que son argent faisait. Il ne te dit pas tout ce qui se faisait dans le monde. Il ne se rappelle que le fait que dans le monde, il pouvait boire de l'alcool. Il ne te dit plus ce qu'il fait. Quand il a fini de boire l'alcool, on le ramène à la maison. Nué, c'est sa femme qui le lave. Le jour que tu as là, est dans tous les cas présents. Si quelqu'un vient à Jésus, c'est toujours parce qu'il est fatigué du monde. C'est parce que quelque part, ses problèmes le dépassent. Et quand tes problèmes te dépassent, Jésus dit, viens, je vais te donner du repos. Donc si tu viens et s'il t'accepte, c'est parce qu'il veut te donner du repos. Il sait que ton fardeau est trop lourd, il veut te donner du repos. Ensuite, il dit, prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux versets. Au verset 28, il dit, si tu es trop chargé, viens, je vais te délivrer. Et pour t'expliquer comment il va te délivrer, parce que je répète, il y a un lien entre les deux. Comment il va te délivrer de ton fardeau? Il dit maintenant de prendre son joug à lui. Et laisse-le t'instruire. Comment le Seigneur enlève les fardeaux qu'il y a dans ta vie? Pas en claquant des doigts. En t'enlevant les fardeaux du monde. Pour les remplacer par son fardeau à lui. Nous étions esclaves de Satan. Et Satan est un mauvais maître. Il va t'escroquer, t'exploiter, te violer, te tuer, et ne te nourrit même pas. Et dans tous les cas, tu vas mourir. Un autre maître vient. Il dit, tu seras mon esclave aussi. Tu ne quittes pas un maître en tant qu'esclave pour aller chez quelqu'un d'autre en tant que libre.
Non.
Jésus dit, je te rachète à Satan. Et il ne paye pas avec de l'argent. Il paye avec son sang. Il paye avec sa souffrance. Il dit, Satan, prends mon sang. Prends mes souffrances. Je les rachète. Maintenant, tu as la propriété de Jésus. Maintenant, la propriété de Jésus. Tu es aussi esclave de Jésus. Jésus dit, si tu ne veux plus souffrir Satan, accepte d'être mon esclave à moi. C'est-à-dire que moi aussi je vais t'utiliser. Moi aussi tu devras m'obéir. Tu devras obéir à mes conditions moi-même. Mais il dit, je vais t'instruire. Laisse-moi t'instruire. C'est-à-dire, laisse-moi te parler. Laisse-moi te conseiller. Laisse-moi te dire ce qu'il faut faire. Nous venons de voir que la foi, c'est d'accepter de recevoir ce que la parole dit qu'il faut faire. C'est d'accepter que la parole soit une lampe à nos pieds. Dans le règne spirituel, la parole de Dieu est la lampe qui te permet de savoir où tu mets les pieds pour bien marcher. Donc, pour te libérer de tes fardeaux, Jésus dit, accepte d'être mon esclave. Et laisse-moi t'apprendre comment tu dois faire. Car je suis doux et humble de cœur. Et il t'achète comme esclave. Mais il te dit, ne t'inquiète pas. Moi, je vais t'apprendre comment tout en étant esclave, tu peux être heureux. Ne t'inquiète pas. Je suis aussi un maître. Encore plus grand que l'autre maître. Mais moi, je suis doux. Moi, je suis humble de cœur. Moi, je suis généreux. Et avec moi, tu trouveras du repos pour toi-même. En tant qu'esclave chez l'autre maître, tu n'as pas de repos. Tu cours tout le temps, tu n'as jamais la paix. Tu ne peux jamais dormir en te disant que demain est assuré. Mais si tu changes de maître, si tu deviens l'esclave de Jésus, si tu acceptes qu'il t'instruise, si tu acceptes de marcher selon ses commandements, parce que si tu es son esclave, tu ne peux pas discuter ses ordres. Si je parle à ma domestique, elle fait ce que je lui fais. Sinon, ce n'est plus ma domestique. À plus forte raison, un esclave. Donc si tu es l'esclave de Jésus, il ne te demande pas ton avis. Il dit de te baptiser. Il ne dit pas baptise-toi si tu veux. C'est un ordre. Je peux vouloir laver mon chien, il ne va pas d'accord. Si c'est mon chien, si je veux le laver, c'est là. Si je dis de manger, il mange. Si je dis de dormir, il dort. Si je dis d'aboyer, il aboie. Si tu es esclave de Jésus, tu lui appartiens. Tu es son mouton. Je peux demander à mon mouton de faire quelque chose, il va discuter. Mais je lui dis, si tu acceptes d'être mon mouton, de faire ce que je dis de faire, tu vas voir que je suis un maître doux, que je suis un maître généreux. Et bien que tu sois esclave, tu vas avoir du repos pour toi-même. Il dit, vous trouverez du repos pour vous-même. Et tu ne seras plus le bœuf ou le mouton qu'on fait travailler tout le temps. Comme bœuf, mouton, tu vas travailler quand même pour ton maître. Tu vas évangéliser pour lui. Tu vas impacter le monde pour lui. Tu vas glorifier Dieu. Donc tu travailleras toujours pour ton maître. Mais comme il y aura son onction, comme il y a sa sagesse, si tu lui obéis, tu feras tout ça avec facilité. Tu verras que lui il est doux, que lui il est bon, et que tu peux faire tout ça dans le repos. C'est pourquoi Isaïe 30 nous dit rentrer dans le repos de Dieu. Dieu est le maître qui impose le repos à ses collaborateurs à travers le sabbat. Vous connaissez un maître qui dit tu dois te reposer forcé? Allant jusqu'à te punir si tu ne te reposes pas. Mais c'est ça le maître que Jésus est ici. Il dit le jour que je vous invite à prendre est facile à porter. Et le fardeau que je vous propose est léger. Suivre Jésus est facile. Et à devoir accepter sa charge, sa mission est facile, est léger. C'est léger si tu acceptes ces instructions. Les versets 28 et 29 sont imbriqués, sont liés. Vous venez à Jésus, vous voulez décharger vos fardeaux parce que vous êtes fatigué. Moi y compris, je suis venu à l'église parce que j'étais fatigué, parce que mes fardeaux me dépassaient, parce que je voulais avoir du repos. Personne ne vient à Jésus s'il n'est pas fatigué. Mais le problème c'est que quand vous arrivez à Jésus, vous ne voulez plus son fardeau. Vous voulez quitter le fardeau de Satan et être libre dans la nature. Être libre dans la nature, c'est être encore esclave de Satan. Vous devez accepter, si vous voulez vraiment finir complètement avec vos problèmes, de rentrer sous le fardeau de Jésus, d'obéir à Jésus, de suivre les instructions de Jésus et de le faire avec foi. La foi étant de croire que ce qu'il dit est vrai et qu'il vaut pour mieux pour vous l'appliquer. Ne considérez plus la foi comme un luxe. C'est le bon sens spirituel. C'est le béaba si vous voulez marcher spirituellement. Et je prie donc le Seigneur de développer la foi qu'il vous a donnée. Parce que si vous n'aviez pas un minimum de foi, vous ne seriez même pas ici devant moi à l'église. Donc si vous êtes déjà là, c'est que vous avez ce minimum de foi.
Donc
nous allons prier que le Seigneur vous développe cette foi-là et qu'elle grandisse par l'écoute de la parole de Dieu afin que vous puissiez marcher victorieusement dans le
reste de Dieu.
Que Dieu vous bénisse.
Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.